Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Mano Siri sur Judaïque FM.
Eh bien, bonjour à notre émission du dimanche matin Livre au Café des Psaumes et qui est donc retransmis toujours le dimanche sur Judaïque FM. Aujourd'hui, je reçois donc Cécilia Duterre pour son ouvrage Un cœur universel. Et le sous-titre, c'est Regards croisés sur Eti Ilsoum, et qui est donc paru aux éditions Salvator.
Bonjour à tous.
Voilà, donc bonjour, on est ravis de vous recevoir ici. Et on va commencer un petit peu traditionnellement par vous présenter. Éventuellement, vous me ferez quelques remarques si vous trouvez que la présentation n'est pas complète ou n'est pas juste. Alors, vous êtes écrivain et critique littéraire. C'est en tous les cas ce qui est comme ça que vous apparaissez à chaque fois qu'on fait quelques petites recherches sur vous. Mais depuis 2005, en fait, c'est depuis 2005 que vous êtes consacré à l'écriture complètement, avec notamment Une présence incertaine en 2005. C'est votre premier ouvrage, je crois. J'ai fait une sélection. Hein. La Dame de ses pensées en 2008. Eti Ilsoum, donc premier ouvrage sur elle, Une voix dans la nuit en 2010. Et plus récemment, L'âme de fond en 2012 et Savannah Dream. Voilà. Donc, je sais que vous avez écrit aussi d'autres ouvrages, mais j'ai fait cette petite sélection. Donc, là, ma première question, ça sera la suivante. Bah, pourquoi, évidemment, forcément, c'est une question où vous devez vous y attendre. Pourquoi ce deuxième livre, qui n'est pas une biographie, il faut le dire, alors que le premier était une biographie sur Eti Ilsoum, mais qui est en fait un ouvrage collectif que vous avez dirigé sur Eti Ilsoum.
Voilà, alors Eti Ilsoum, est-ce qu'on rappelle en deux mots qui est Eti Ilsoum ?
Tout à fait, c'était ce que je comptais vous demander.
Eti Ilsoum, c'est une jeune femme juive néerlandaise hein, qui a laissé un très beau journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a écrit un journal de 41 à 43, un journal et une correspondance, alors que les Pays-Bas étaient occupés donc, par les nazis. Alors c'est un journal qui est à la fois témoignage historique sur la montée du nazisme, et puis ensuite, il y a toute une partie aussi où elle laisse une correspondance dans les camps, donc c'est vraiment aussi un témoignage sur la Shoah. C'est une jeune femme qui, effectivement, donc, nous relate la montée des mesures ségrégatives, mais surtout, au-delà du témoignage historique, c'est aussi un témoignage spirituel bouleversant, magnifique, dans une période de chaos historique terrible. Et au cœur de la barbarie, c'est une petite voix qui s'élève pour exalter en fait la beauté, le sacré de la vie, pour rappeler que la vie est quand même belle et pleine de sens. Voilà, c'est un acte de résistance spirituelle, complètement héroïque. Donc on va en reparler, j'imagine. Mais pourquoi alors ce second livre ? Oui. Alors déjà, pourquoi le premier ? Parce que j'étais tombée voilà, par hasard sur le journal d'Eti Ilsoum, hein, qui est publié donc, en français sous le titre « Une vie bouleversée ». Qu'on peut trouver partout, qui est en poche.
Alors vous dites d'ailleurs quelque part que vous l'avez trouvé à la procure, vous baladant dans la procure, et que vous êtes tombé dessus et que c'était une impulsion, et c'est ça qui au fond démarre au fond votre intérêt pour cette jeune femme.
Exactement, je la découvre par hasard et j'entre complètement en écho avec je dirais son croire, d'abord ce magnifique hymne à la vie qu'elle nous offre, mais aussi vraiment au cœur de sa spiritualité très justement universelle. Alors dans un premier temps, j'ai fait cette biographie qui était un ouvrage général en fait sur à la fois son parcours personnel, parce qu'elle a un parcours très intéressant aussi de femme et justement très incarné, et puis bien sûr qui aussi revenait sur le parcours spirituel, mais ça reste un ouvrage généraliste, donc pas uniquement sur la spiritualité d'Eti. Et puis là, à l'occasion de cette année 2014, où on fête le centenaire de la naissance d'Eti Ilsoum.
Oui, puisqu'il faut dire qu'elle est née, si je me souviens bien, en janvier
1914
à Middelbourg, hein, il faut
exactement.
Dire. Et elle est, alors curieusement d'ailleurs, on présente dans sa bio qu'elle est décédée je dirais le 30 novembre à Auschwitz. Moi j'ai envie de dire, quelles que soient d'ailleurs les circonstances de son décès, qu'elle est assassinée à Auschwitz. Enfin, c'est oui. C'est assez curieux. On a comme ça une présentation, elle est décédée. On n'est pas décédé à Auschwitz, on est assassiné à Auschwitz.
On est assassiné, voilà. Vous avez tout à fait raison.
Je veux dire, ça me paraît important de le redire parce que c'est pas du tout neutre. Elle a, d'ailleurs, il faut dire, elle a quand même 29 ans. Quand elle est tuée, ce qui représente une vie très courte.
Une vie très courte. Et alors, le témoignage qu'elle nous laisse est très court aussi, puisqu'elle commence son journal à 27 ans. Et vous le rappelez, elle est assassinée à 29 ans. Mais n'empêche que dans ce parcours très court, justement, peut-être que l'urgence, parce que très vite, elle sait, elle voit bien comment ça se passe autour d'elle, très vite, elle sait que ses jours seront bientôt comptés.
D'ailleurs, elle dit quelque part qu'il faut avoir la lucidité de se rendre compte que, elle dit, en parlant évidemment des nazis, que ce qu'on veut, c'est notre extermination.
Totale. Voilà. Elle le dit dès le départ, pratiquement au tout début de son journal. Donc elle est très clairvoyante et très lucide, comme vous le dites. Et voilà. Et donc, en un peu plus de 2 ans, elle va faire le parcours que peut-être nous, peut-être nous, on ne fera pas pendant toute une vie. Parce qu'elle a justement cette espèce d'urgence en elle. On va sans doute revenir sur son parcours. Pourquoi le deuxième ouvrage, je termine juste là-dessus. Oui. Parce que je voulais mettre en valeur la spiritualité très universelle des Tilsum. Parce qu'elle est très, elle est plutôt connue des chrétiens, elle est connue des juifs aussi, mais c'est vrai qu'elle avait été un peu, de mon point de vue, récupérée par le côté chrétien. C'est vrai qu'il y a une influence du message chrétien important qu'on retrouve dans sa spiritualité, mais ce serait réducteur de ne la voir que par le prisme chrétien. En tout cas, c'est de mon point de vue. Et pour mettre en valeur justement cette spiritualité sans frontières, sans limites, j'ai demandé dans cet ouvrage à plusieurs autres contributeurs de venir parler d'Eti. Moi, je fais la partie chrétienne et judaïque parce que je suis juive par ma maman.
Vous introduisez.
Voilà,
vous introduisez.
Exactement. Et puis, je reviens sur le message aussi chrétien qu'on peut retrouver, effectivement, qui peut parler au cœur du chrétien. Mais j'ai demandé à Delphine Orwiller, qui est rabbin, de nous parler aussi des résonances avec la tradition judaïque.
Alors, on va peut-être
judaïque.
Revenir sur... Mais on peut effectivement présenter rapidement
les contributeurs.
Donc, Delphine Orwiller. Alors, qui est rabbin, ce qui d'ailleurs, faut quand même le rappeler, dans le monde juif, ça fait pas très longtemps qu'on a des femmes rabbins. Ça fait plus longtemps aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, mais en France, ça fait pas très longtemps. Et elle est rabbin donc du mouvement juif libéral. Ce qui n'est pas indifférent d'ailleurs pour Eti Yissoum, parce que Eti Yissoum appartenait plutôt, d'ailleurs, elle était d'un judaïsme très assimilé probablement, mais si elle avait appartenu à quelque chose, ça aurait été plus, je dirais, à cette tendance libérale. Alors, les autres contributeurs.
Alors, Alain Delaye, hein, qui ouvre la spiritualité d'Eti aux sagesses orientales, bouddhisme et hindouisme. Galeb Benchek pour le regard musulman. Et puis deux regards un peu plus transverses, hein, le regard d'un philosophe, Emmanuel Jafflin, puis le regard psychanalytique, très important pour Eti Yissoum, qui a suivi une analyse thérapeutique de Jacques Arène.
Tout à fait. Alors on reviendra sur ces contributions, mais je voudrais revenir, je dirais, à la fois à votre intérêt et en même temps à des choses que vous dites d'elle, sur lesquelles moi je me suis interrogée. Donc je vais un petit peu peut-être vous bousculer sur ces choses-là. Mais parce que d'une part, vous dites à plusieurs reprises qu'Eti Yissoum bouleverse votre sensibilité de femme, de romancière, et fait écho à votre foi judéo-chrétienne. Alors commençons, il y a plusieurs questions naturellement qui sont comprises dans cette affirmation. Je dirais d'abord votre sensibilité de femme, commençons par ça, puisque c'est par là que vous commencez. Bah, quel genre de femme est Eti Yissoum ?
Alors Eti Yissoum, c'est une grande amoureuse. On l'apprend au tout début de son journal. En fait, c'est une grande amoureuse et c'est une grande chaotique. C'est les deux. Et je dirais qu'elle est dans une forme de proximité incroyable dans son journal, dans une forme de sincérité où elle nous déverse au départ vraiment un mal-être très profond, mais un mal-être qui est aussi, alors dans son cas, qui est très prononcé, mais qui est peut trouver chez beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'elle a une forme d'insatisfaction. Elle est beaucoup dans une quête de séduction. Alors là, qui s'exerce par de multiples conquêtes amoureuses.
Des hommes, il faut dire des hommes.
Des hommes, d'âge mûr. Mmh. Elle est dans, je pense, une très grande inconfiance. Alors elle retrouve sans doute une forme de confiance ou de tranquillisation avec des hommes mûrs, mais qu'elle multiplie les conquêtes. Et finalement, ça ne comble pas. Elle a un grand désir en fait en elle, mais qui n'est pas comblé par le désir, par la quête amoureuse, et elle se perd en fait dans cette quête, et elle arrive pas du tout à structurer tout ça.
Et c'est ça qui vous quand vous dites elle
est-ce que c'est ça qui me parle?
Non, pas particulièrement, en soi.
Mais ce que je veux dire, c'est que elle est très femme jusqu'au bout des ongles. Quand elle a 27 ans, elle est, alors effectivement, il y a ce chaos-là, mais elle est quand même dans une... Elle se cherche dans le regard des hommes. Et ça, je pense que quand même, toute femme, même si moi, je suis beaucoup plus âgée qu'elle, hein, j'ai 45 ans, mais on est tous passés par là à un moment donné quand même. On se construit aussi beaucoup, nous, femmes, dans le regard des hommes. Et elle le dit très bien dans son journal. Je trouve qu'elle est très touchante, très bouleversante.
À la différence peut-être de Simone Veil, parce qu'il est...
Ah bah c'est sûr, elle est beaucoup plus incarnée. C'est sûr. Simone Veil est beaucoup plus cérébrale, en fait. Ouais. Elles ont un croire qui est assez proche, en fait, mais il y en a une qui est philosophe, qui est beaucoup plus cérébrale qu'Etty. Etty, c'est une femme très incarnée. Et c'est... Alors, par ailleurs, ce qui est intéressant, et là c'est dissocié de l'aspect féminin, mais son mal-être est intéressant parce qu'elle part d'un chaos très important et elle va essayer de justement, dans un parcours thérapeutique, donc elle va rencontrer un homme qui s'appelle Julius Peer, dont elle va tomber amoureuse puisque c'est son mode, son rapport finalement au monde.
Il faut dire que c'est un juif berlinois. Voilà. Il a fui le nazisme il y a 2 ans, donc il va évidemment aux Pays-Bas, il va le retrouver immédiatement puisque les Pays-Bas sont occupés.
Oui.
Il est psychanalyste, mais psychanalyste jungien, ce qui est quand même une branche de la psychanalyse particulière, d'ailleurs qui n'est pas toujours reconnue, et en plus il est... Chirologue.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'être chirologue?
Alors,
parce que
il
c'est
avait ce talent ésotérique de lire le caractère, le tempérament des gens en regardant leurs mains. Donc, c'est pas de la voyance, hein, c'est vraiment, voilà, c'est... Et visiblement, il était extrêmement fort, parce que donc, il a ouvert un cabinet comme secondaire, donc comme vous le dites, puisqu'il est réfugié. Il a déjà toute une course à un homme à femme. C'est un homme assez âgé, qui a 57 ans, qui a une vie derrière lui, qui a été marié, divorcé
plusieurs fois,
qui est fiancé avec une très jeune femme qui, elle-même, est réfugiée à Londres, donc il est séparé de corps avec cette jeune femme. Et il a tout autour de lui tout un aréopage d'admirateurs qui suivent ses cours, parce qu'il donne des cours de psychanalyse, et puis aussi il fait des analyses, des thérapies. Mmh. Et donc elle va à un de ses cours sur les conseils d'une amie, parce qu'elle est très mal, elle se sent très mal, elle est dans une forme de dépression très importante, et on lui dit que peut-être il va pouvoir l'aider. Elle lui tend ses mains, et là il découvre son caractère, il la dévoile, il la perce à jour, et si bien qu'elle en est complètement subjuguée.
Mmh.
Et je pense qu'il avait un très grand magnétisme, une très grande aura. Elle en tombe folle amoureuse et elle décide de commencer une thérapie avec lui. Et en fait, c'est un homme qui est à la fois, alors pas très orthodoxe, on va dire.
Il est très transgressif par rapport à la doxa psychanalytique.
C'est
puisque,
sûr.
Je veux dire, théoriquement, on ne touche pas son patient, alors encore moins on couche avec elle, naturellement. Mais donc, de ce point de vue-là, il est totalement, je dirais, à la marge de la psychanalyse. Mais manifestement, il se passe quelque chose pour
lui. En même temps, il va la coucher à elle-même, il va lui apprendre à s'accepter, à s'aimer. Et partant de là, elle va s'aimer. Elle ne s'aimait pas du tout. Il va lui apprendre à s'aimer. Et puis, elle va découvrir que quand on s'aime, on peut aimer les autres. Donc, tout part d'elle. Mais elle va élargir comme ça le cercle de l'amour. Alors, on peut aimer les autres. Et puis, peut-être qu'il va lui apprendre aussi qu'au-delà de l'amour qu'on peut porter à un homme, qu'elle peut porter à un homme, donc elle lui porte à lui en particulier, mais elle continue aussi d'avoir une autre histoire d'amour avec son logeur. Donc, vous voyez, on est toujours dans la multiplicité. Il va lui apprendre que quelque part, ce grand désir qu'elle porte en elle, c'est peut-être pas un désir amoureux qui va le combler, mais un désir plus grand, un désir transcendant. Et peut-être qu'en creusant au plus profond d'elle-même, elle va trouver justement cette possibilité de s'ouvrir à plus grand que soi, et plus grand que soi, donc un dieu qu'elle va découvrir. Alors là, évidemment, je vais vite, hein,
mais
ça se passe sur
au fond
d'elle-même et sur plusieurs mois. Hein.
Oui. Non, parce que ça se joue. Oui, mais en même temps, c'est très court. Hein. Ça se joue sur 2 ans. Hein,
Sur.
Il faut le rappeler. C'est pas du tout une affaire de 5 ans.
Non.
Ça commence en 41 et ça se termine en 43. On sait très bien pourquoi. Donc
oui.
c'est extrêmement ramassé.
Oui.
Alors, je voudrais maintenant justement un peu vous interroger là-dessus, parce que moi, il y a quelque chose, je vous le cache pas, qui m'a gênée.
Oui.
Donc
C'est le
fait d'invoquer ce que vous appelez la foi judéo-chrétienne. Alors je vais vous expliquer, et puis comme ça je vais vous laisser la liberté de répondre après. La foi chrétienne, je vois très bien, il n'y a pas de problème, la foi chrétienne c'est inscrit dans le christianisme, je dirais c'est même comme ça qu'on devient chrétien. Alors pour la foi juive, là je ne vois pas du tout, parce qu'il n'y a pas de foi dans le judaïsme. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire en Dieu. D'ailleurs, je dirais, parmi les Juifs, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas du tout. Mais il n'en reste pas moins que, je dirais, on se reconnaît quand même dans cette forme d'appartenance, de fidélité à une histoire, de fidélité, y compris à ce que cette histoire porte de messages, effectivement, qui pointent vers la transcendance. Mais, il y a toujours une blague dans le judaïsme qui dit, il n'y a qu'un seul Dieu, mais nous n'y croyons pas. C'est une blague très connue, mais je pense qu'elle rend compte de quelque chose de très très profond, à savoir que ça n'est pas la foi qui définit le rapport au judaïsme. On peut croire ou ne pas croire, mais ça n'est pas par la foi qu'on se définit juif. Alors du coup, la notion de foi judéo-chrétienne, je vois pas ce que ça peut vouloir dire. Ou alors, j'ai envie de vous faire une proposition, puis vous réagirez. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire que Etty, Ilsoum, fut une femme juive, ça c'est clair. Par ses parents, elle l'était, très clairement. Hein, par sa mère, elle est d'un point de vue halachique absolument juive.
Oui.
Donc c'est à ce titre vraiment qu'elle est dans cette transmission, dans cette histoire-là. Oui. On pourrait dire aussi parce qu'elle a partagé le destin effroyable des Juifs d'Europe dans cette période-là. Donc qu'elle cherche pas du tout à s'en abstraire. C'est en plus elle a une espèce de fidélité incroyable à tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est une femme juive qui se serait tournée vers le christianisme. Ce qui, d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Enfin, il y a toujours eu des juifs qui sont convertis au christianisme, comme d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des chrétiens qui se sont convertis au judaïsme, en moindre proportion, parce que pendant très longtemps, c'était quasiment impossible, ou alors il fallait le faire vraiment totalement clandestinement. Mais j'ai du mal avec cette notion de judéo-christianisme qui, pour moi, me paraît une récupération du judaïsme par les chrétiens. Je voudrais savoir quel est votre sentiment là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment un point pour moi d'achoppement dans le livre. Voilà.
D'accord. Alors, Etty, vous avez rappelé qu'elle était juive. Elle n'a pas été élevée du tout dans le judaïsme. Non. Ses parents ne l'ont pas élevée, en fait, dans aucun, même pas dans la croyance en Dieu, quel qu'il soit. Il n'empêche que
son père c'est un intellectuel.
Oui, c'était.
C'est des gens complètement laïques. Enfin, ils sont vraiment dans cette laïcité
qui ne fêtait pas les fêtes juives.
Ils sont complètement assimilés. En fait, ils sont assimilés. C'est des juifs assimilés.
Oui, oui, oui. Comme il y en avait beaucoup en Hollande, qui était une terre d'accueil jusqu'à l'occupation, qui était une terre d'accueil pour les juifs.
Très ancienne d'ailleurs.
Oui, très ancienne. Et il y avait une très grande communauté, surtout à Amsterdam. Elle a un sentiment d'appartenance quand même extrêmement fort, alors dû à la période, mais c'est vrai qu'en dehors du fait qu'elle subit les mesures juives et que elle endosse véritablement, je pense que sa vie vraiment en témoigne, elle endosse complètement le sort du peuple juif au sens large.
Ça, je suis d'accord,
et à un moment donné, d'ailleurs, on lui propose de prendre la clandestinité, elle a cette possibilité de quelque part de se sauver, et non seulement elle se sauve pas, mais elle devance l'appel puisqu'elle va aller au camp de Westerbork, par elle-même, en fait. Quelque part, elle va devancer sa convocation et elle va pour porter assistance à ses frères juifs, justement, elle va aller sur place. Et elle va tellement endosser le sort du peuple juif qu'elle va en mourir à Auschwitz. Donc là, on ne peut pas... Alors, quant à la foi, c'est... Il y a deux choses. Vous parlez de, vous dites qu'elle est convertie au christianisme. Donc, pas du tout.
Non, je
pas
sais.
Pas du tout.
Mais,
souvent, on le pense. Donc, c'est pour ça que je le rappelle. Elle ne sait... non, et d'ailleurs, dans ce journal, quand elle parle de Dieu, elle dit Dieu, elle dit le Seigneur. Elle parle parfois de choses très abstraites comme de flux. Donc, vous voyez qu'on peut, on peut même être très proche des philosophies plus orientales. Plus... Et c'est d'ailleurs ce que rappelle aussi le livre. Alors, c'est vrai que j'ai une culture, d'un point de vue de foi, chrétienne. Donc, je retrouve effectivement quand même beaucoup de choses dans son message qui me rappellent le message christique. Bien sûr, son propre parcours est aussi un parcours de passion christique. Quelque part, on peut aussi l'envisager comme ça, puisque la souffrance, quand elle est au camp de Westerbork, sa propre souffrance, finalement, elle la dédie aussi, elle englobe la souffrance collective. C'est en ça aussi qu'elle prend aussi tout le sort du peuple juif sur ses épaules. Quant à l'aspect vraiment de spiritualité, d'une tradition judaïque dans sa forme de spiritualité, moi je ne pouvais qu'en appeler à quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Delphine Horviller. Alors Delphine Horviller, elle voit des résonances et elle voit aussi des points de rupture.
Ah oui,
vous.
Tout à fait. Moi, c'est ce qui
et
m'a
c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans sa contribution, c'est qu'elle n'est pas complètement... c'est vrai qu'Etty est une femme de paradoxe, c'est une femme de contradiction, c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est parce qu'elle est humaine. Et qu'elle revient aussi sur les paradoxes, elle revient sur des choses qui peuvent éventuellement la gêner dans le discours d'Etty, elle en tant que juive, par exemple l'exaltation de la beauté de la vie au cœur même de la Shoah. Elle dit que c'est à la fois quelque chose de magnifique parce qu'elle dépasse la barbarie, elle dépasse l'entreprise d'anéantissement même de la vie qui est le... Et en même temps, elle dit quelque part, c'est inaudible. Donc il y a les deux. Elle est aussi en balance entre les deux. Et je le comprends très bien, moi-même qui ai un passé, enfin de par ma maman, qui a vécu l'occupation en France. Donc moi aussi, quelque part, ça me parle à mon histoire. Et j'ai aussi un bagage immémoriel qui fait que on m'a raconté tout ça. Et c'est très proche. Ce qui s'est passé, même si dans des proportions moindres, mais c'est aussi très proche ce qui s'est passé en France. Quant à la foi même d'Etty, Delphine Horviller, elle nous dit cette écoute au-dedans, le regard intérieur qu'elle porte et le fait qu'elle trouve Dieu en elle, elle nous dit que c'est très... c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans la tradition judaïque où effectivement l'écoute est très mise en valeur. Elle retrouve aussi dans la relation d'idylle que Etty entretient avec Dieu, parce que ça, il faut peut-être
en
parler.
C'est comme dans Cantique des Cantiques, oui.
Elle retrouve dans cette tradition-là.
C'est quand même faut aussi peut-être dire, parce que c'est important de situer, parce qu'effectivement, Delphine Horviller, elle marque bien, les points de résonance, c'est exactement le terme qu'elle emploie, et pas d'ailleurs de convergence, mais de résonance. Donc c'est de ce qui fait écho, et en même temps, elle marque les points de rupture. Mais, parce que c'est vrai que cette question de ce rapport très très intime, à Dieu, à ma connaissance, elle ne dit jamais à l'Éternel, elle dit Dieu.
Dieu, voilà. Ou le Seigneur.
Voilà, enfin, donc c'est ce qui est un vocabulaire d'ailleurs plus chrétien que juif. C'est quand même quelque chose, ça appartient à une tradition un peu réservée, c'est-à-dire que tout ce qui prend sa source dans le Cantique des Cantiques, c'est quand même un peu la tradition ésotérique du judaïsme qu'on retrouve après, dans la Kabbale, etc. etc. Parce que moi, ce qui m'a un petit peu frappé, si vous voulez, c'était pour justement marquer la différence, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on définit, de cette façon très marquée, justement, ce qu'est le christianisme et ce qu'est le judaïsme. Peut-être faut revenir un petit peu à Simone Weil. Au fond, on définit de ce point de vue le christianisme comme la religion de l'amour. D'ailleurs, et ça, là, on rejoint totalement
le message. Oui.
Alors que, le judaïsme, ce qu'il caractérise d'abord en premier, c'est la religion de la loi. C'est-à-dire... Oui. Quelle est la notion centrale au cœur, du judaïsme? C'est peut-être moins l'amour, même si on sait que Hillel dit toute la loi se résume à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit bien que ça n'est pas loin, mais c'est quand même la notion de justice. Mmh. Et c'est là où on a un petit peu toute l'ambiguïté de Etty Issoum, me semble-t-il.
Oui.
C'est que alors en même temps, comment parler comme ça alors qu'on n'a pas du tout traversé ce qu'elle a traversé? C'est facile, hein, je m'en rends compte, c'est facile de mais on a l'impression qu'elle oublie cette question-là, la question de la justice, parce que la justice est impossible dans le camp, évidemment. La justice, c'est la négation totale de la justice, c'est l'injustice portée, je dirais, à un niveau absolu. Donc, comme si l'amour était le seul recours. Au fond, je me pose vraiment des questions. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui me dérange?
Je comprends. Mais elle, d'ailleurs, Delphine Horviller le souligne, ça, que effectivement, il y a un moment donné, elle se place si haut que elle. D'ailleurs, elle dit, le mal, on lâche tous en chacun de soi. Elle, son message, c'est de dire moi, si je veux que le monde aille mieux, si je veux qu'il y ait un monde de demain de paix, il faut que d'abord j'apprenne à extirper le mal de moi. Elle se situe au même niveau victime et bourreau. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, elle est dans un degré presque d'abstraction qui est quand même hallucinant. Mais parce que, tout simplement, Etty, c'est quelqu'un qui voit deux cours. C'est-à-dire qu'il y a le cours conjoncturel qu'on lui impose. Et là, effectivement, elle a les deux pieds dedans, surtout au camp. Mais elle décide délibérément de situer sa vie dans les bras de Dieu, dans un cours, plus cosmique, transcendant. Et là, on n'est plus dans cette idée de justice humaine, mais on est dans une idée de... Et c'est pour ça que j'en reviens toujours aux philosophies orientales. C'est vrai qu'il y a quand même aussi une forme d'abstraction dans son discours de concept. C'est-à-dire que Dieu n'est pas que, justement, ce rapport vertical qu'on a chez les chrétiens ou chez les juifs, mais il y a aussi une idée de glissement dans un flux supérieur. C'est très beau, ce qu'elle dit. Et où là, tout d'un coup, la vie garde son sens au sein du non-sens. Tout son discours, finalement, tout son message, toute cette résistance qu'elle nous apporte, c'est pas une résistance active. Non. Donc on n'est absolument pas du tout dans un rapport de justice humaine, comme vous dites. Et je comprends que ça puisse être gênant, je le comprends très bien. Et moi-même, parfois, je suis presque choquée de l'hymne à la beauté de la vie au cœur même de l'horreur. Mais en même temps, est-ce que l'acte de résistance spirituelle le plus beau qu'on puisse imaginer, c'est justement que les nazis, ils peuvent pas lui prendre cette part de liberté intérieure qu'elle a en elle. Et elle va apprendre à ses pères, au sein du camp, ils sont enfermés. La liberté extérieure, et il y a des barbelés. Mais en même temps, au cœur de soi, il y a une petite part de liberté intérieure qu'on peut développer. Et elle, c'est ce qu'elle dit, et elle le dit à plusieurs reprises. Là, c'est des correspondances. Et où elle explique que c'est ce qu'elle essaie d'insuffler en fait à ses pères. Alors tous ne l'entendent pas non plus. Et puis c'était peut-être plus facile pour elle qui n'avait pas d'enfant par exemple. Parce que justement elle arrive à s'élever parce qu'elle justement précisément elle n'est pas lestée entre mille guillemets par le fait qu'il faut faire survivre ses enfants. Mais en même temps...
Elle refuse d'ailleurs l'enfant.
Oui et peut-être déjà elle a la préscience de ce qui va arriver. Mais en même temps son acte de résistance est un acte de résistance spirituelle. Donc on n'est plus dans le temporel, on n'est plus dans la justice humaine, on est dans un autre cours. Alors après, soit on peut l'entendre, soit on ne peut pas l'entendre. Et Delphine Horviller, elle sait très bien que c'est ça. Et alors il y a quelque chose en elle qui fait que la barbarie nazie, c'est juste impossible de s'en extraire. Et elle dit qu'il y a quand même un devoir minimal de révolte. Et en même temps, elle dit que peut-être que ce discours-là, il est tellement fort, il est tellement haut, que justement, elle atteint là une vérité transcendante à laquelle je ne suis, moi, pas capable d'accéder. Mais je vois qu'elle est ailleurs, elle se situe ailleurs. C'est deux plans.
Peut-être, en tous les cas, on peut émettre l'hypothèse que dans la mesure... parce que moi, j'essaye toujours de... je vais terminer mes phrases. Dans la mesure où, justement, elle choisit quelque part la spiritualité comme forme de résistance. Parce que moi, je pense qu'il faut toujours se rappeler ce que dit Claude Lanzmann dans Sobibor. Sobibor, tout le monde sait, le film de Claude Lanzmann, ça relate donc la révolte du camp, la révolte invraisemblable aux yeux des nazis du camp, puisque mais il rappelle que qu'est-ce qui a rendu possible Sobibor, c'est que brusquement sont donc amenés à Sobibor des juifs qui sont des soldats, ce sont des soldats de l'armée rouge, et que celui qui va mener quelque part la révolte, c'est je sais plus s'il est capitaine, enfin en tout cas il a un haut grade militaire dans l'armée rouge, et donc Lanzmann dit très bien, mais il faut être entraîné, je dirais, à se battre, et on peut pas reprocher à des gens qui tout à façon n'avait jamais appris à tenir un fusil ni rien, de ne pas savoir le faire. Qu'est-ce qui a permis ce bibord ? C'est que c'était des gens qui étaient entraînés, aguerris. Donc ils ont pu entraîner les autres. Alors on voit bien qu'Eti Hilsum, c'est une jeune femme. Elle fait partie d'un milieu, disons, de la bourgeoisie néerlandaise, hein, on peut le dire.
Oui, petite bourgeoisie.
Oui, mais enfin, elle est quand même. Bon, c'est pas du tout son registre. Alors, son registre, c'est l'introspection. Finalement, son registre, oui. C'est ça. C'est ce qu'elle se découvre avec Julius Speer. C'est cette descente en soi. Et c'est par là qu'elle échappe. Alors, je voudrais. Donc du coup, vous redonnez un petit peu la parole sur les autres contributeurs. Par exemple, ceux qui m'interrogent peut-être le plus, c'est à la fois Alain Delay, donc oui. Le spécialiste des philosophies orientales, en particulier de la spiritualité orientale, le bouddhisme et l'hindouisme. Et puis en même temps, Ghalem Bencher, qui est donc musulman, qu'on connaît, qui est aussi le président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, ce qui n'est pas rien. Alors peut-être vous pourriez un petit peu dire un mot de leur contribution et de ce qu'ils apportent.
Alors Alain Delay, moi je l'ai rencontré parce que il avait écrit déjà sur Eti Hilsum un livre qui s'appelait Sagesse concordante, où précisément moi j'avais déjà essayé aussi dans ma biographie d'ouvrir la spiritualité au taoïsme, d'Eti au taoïsme en dehors de l'aspect plus chrétien, et je m'étais fait un peu taper sur les doigts parce qu'à l'époque c'était pas, voilà, on voyait pas les choses comme ça, et maintenant ça commence à faire son chemin, et lui-même avait vu aussi des résonances dans la foi d'Eti avec l'hindouisme et le bouddhisme. Alors j'ai voulu que là il nous fasse vraiment un développement là-dessus. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, la foi d'Eti, la croyance, le dieu d'Eti, c'est un dieu à la fois très incarné, avec lequel elle est dans un jeu-tu dialoguant.
Donc un dieu comparable d'ailleurs au grand mystique chrétien. Par exemple,
c'est
à Sainte Thérèse d'Avila, ou à Jean de la Croix, dont d'ailleurs, il ne faut pas ignorer qu'ils avaient des origines juives absolument avérées.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, non, alors, c'est une conception très plus occidentale de Dieu, comme dans ce rapport vertical, comme je le disais tout à l'heure. Mais à côté de ça, elle a aussi cette idée de glissement dans un flux supérieur, ou moi je dis supérieur, on peut dire cosmique, on peut dire... Elle parle vraiment de flux, de grand tout. Il y a des termes qu'elle emploie qui sont, voilà, elle a aussi une perception de l'instant présent qui est très exacerbée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les philosophies bouddhistes. Elle a un regard sur la mort comme faisant partie de la vie.
Oui, tout à fait.
Elle
intègre la mort dans la vie, ce qui lui permet d'ailleurs de s'apaiser vis-à-vis de la venue inexorable de la mort.
Parce qu'elle le voit comme une continuité, en fait, tout simplement. Et sur le dernier pan de sa vie, quand elle est à Westerbork, là, elle ne doute plus qu'elle va mourir bientôt à Auschwitz. Elle est déjà ailleurs, elle se situe maintenant dans les bras de Dieu, dans quelque part. Et d'ailleurs, quand Julius Speer, parce que Julius Speer meurt, et elle a un statut un peu particulier tout au début, quand elle est à Westerbork, elle a des permissions, elle peut revenir à Amsterdam.
Oui, elle fait partie de ceux qui ne vont pas être immédiatement déportés.
Elle
profite de statut pendant un court moment, mais en fait, elle y renonce elle-même.
Renonce elle-même parce qu'en fait, alors elle est envoyée, c'est peut-être un peu complexe, mais elle est envoyée par le conseil juif, parce qu'au départ, donc, quand elle est à Amsterdam, ses amis lui disent, écoute, voilà, les convocations à Westerbork arrivent, il faut te sauver. Et elle ne veut pas. Et puis, poussée par ses amis, ils lui disent, mais prends un petit emploi au conseil juif. Alors, le conseil juif, c'était un organe censé représenter la population juive de Hollande. En fait, c'était quand même une courroie de transmission pour le projet nazi, parce que quelque part, ils recensaient la population juive de Hollande et qui, quelque part, ils aidaient
C'est tout à fait comparable à ce que dénonce à certains moments Hannah Arendt.
Oui, tout à fait.
Ce qui n'a pas toujours été vrai partout, mais
là, en l'occurrence. Et donc, en fait, elle arrive au conseil juif à Amsterdam au départ, c'est pour taper les requêtes justement des gens qui essaient de trouver parce qu'il y avait des mesures d'exemption, il y avait des listes, des possibilités, parfois quand on avait un travail comme médecin, etc., de rester encore à Amsterdam. Donc elle tape les requêtes, et en fait au bout de quelques jours, elle n'en peut plus parce qu'elle se rend compte qu'elle collabore avec mille guillemets encore une fois, mais que c'est un travail qui est c'est affreusement ingrat de ce point de vue-là, atroce. Et donc un premier contingent de membres du conseil juif sont envoyés à Westerbork justement comme assistants, avec encore une fois des guillemets, social sur place pour aider la population juive en transit. dite en transit, et donc elle se porte volontaire pour aller là-bas. Donc effectivement, elle devance l'appel parce qu'elle n'a pas reçu sa convocation et elle y va. Mais le fait d'être membre du Conseil juif encore un petit bout de temps lui permet néanmoins
la protège d'être
envoyée à Auschwitz, parce que les convois donc partaient de Westerbork pour Auschwitz, et surtout lui permet d'avoir quelques permissions. Or, pendant la première période où elle est à Westerbork, évidemment, les conditions sont extrêmement insalubres. Il fait froid, on mange très mal, on mange pas. L'eau est croupie. Et donc, elle tombe malade. Et donc, elle revient souvent se soigner à Amsterdam. Et dans une de ses permissions, Julius Speer décède d'une pneumonie, d'un cancer,
d'un cancer du poumon.
Et en fait, curieusement, une amie à elle dit « Mais elle n'était pas triste ». Alors qu'elle a vécu une passion avec cet homme, qu'il est tout pour elle. Il est de moins en moins tout pour elle parce qu'elle a trouvé qu'au-delà de l'amour qu'elle lui portait, il y avait un amour plus grand, c'était l'amour de Dieu. Il a été un passeur merveilleux pour elle et en même temps, elle sait que d'abord, il va échapper à Auschwitz en décédant de sa mort naturelle, on va dire. Et d'autre part, qu'il va retrouver les bras de Dieu. Et donc, elle voit vraiment la mort. On ne parle pas de résurrection là, on ne parle pas de résurrection christique. Mais en même temps, voilà, la mort faisant partie de la vie, il va retrouver le grand cycle de la vie, cette beauté universelle qu'elle exalte.
Et c'est en cela que vous diriez qu'elle a on retrouve chez elle une résonance des philosophies orientales.
Notamment, il y a une forme d'abstraction dans sa pensée, c'est indéniable. En plus, alors elle avait justement ce Julius Speer, qui était jungien, l'avait ouvert, il l'avait beaucoup nourri. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que pendant toute la période de thérapie, il l'a nourri intellectuellement aussi de lectures. Alors des lectures chrétiennes, bien sûr, la Bible, les évangiles, saint Augustin, ça c'est très marquant. Mais il lui avait fait lire aussi le Talmud, il lui avait fait lire le Coran, on va en parler avec Galeb Benchek. Mais il avait aussi ouvert notamment à Romain Rolland, qui lui-même avait introduit toute la pensée orientale, des philosophies orientales en Occident. Ce thérapeute jungien était ouvert forcément en tant que jungien aux religions, et il avait ouvert à toute cette justement universalité de la pensée transcendante. Et donc, pour en revenir à Galeb Benchek, quelques mots, c'est intéressant parce que, en fait, le regard musulman, je me disais, est-ce que le message d'Eti peut être entendu, entrer en résonance? Et il la compare à une figure majeure de Rabia. De la pensée musulmane.
Alors peut-être on peut dire en deux mots qui est Rabia, parce que c'est pas complètement évident de savoir.
La petite joueuse de flûte, mais en fait c'est une femme qui a eu un parcours exactement comme celui d'Eti, c'est-à-dire qui part du charnel pour aller vers le spirituel. Pareil, une femme qui était dans les amours humaines et qui a découvert que au-delà de l'amour humain, un amour plus grand s'offrait à elle. Sa passion pouvait s'offrir à Dieu.
Tout à fait. Et alors. Donc peut-être ça permet un peu d'éclairer du coup cette façon, ce livre, hein, qui c'est parce que ce qui m'a gêné dans un premier temps, ça m'a gêné peut-être plus à la lecture qu'en vous écoutant finalement, c'est, je me disais, mais est-ce qu'on cherche pas à récupérer Eti, chacun veut son Eti, alors les chrétiens ils ont leur Eti, les juifs ils ont leur Eti, de toute façon Eti étant juive, ça nous paraît, je dirais, plus naturel entre guillemets, mais alors les musulmans auraient leur Eti, et puis le bouddhisme aurait son Eti. Donc il y a quelque chose. Non, je pense que ce que vous essayez de mettre en valeur, c'est les résonances, c'est la façon dont son message peut être entendu, où qu'on soit, où qu'on se situe.
En fait, je voulais mettre en valeur le fait que pour tous ces contributeurs, parce qu'on était d'accord sur l'idée, on la voit comme un pôle de convergence mystique. Elle est porteuse de valeurs, donc toutes les confessions et même, je dirais, les athées peuvent se reconnaître en Eti, parce qu'il n'y aurait chez Eti qu'un humanisme, il serait un humanisme exacerbé, et je pense qu'elle peut vraiment parler en fait au monde moderne. C'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Son message d'amour, son message de spiritualité, sa quête d'absolu, elle peut être comprise de tous et elle peut parler au monde contemporain qui, je pense, est en quête d'absolu, mais qui n'est pas toujours ami avec le dogme. Voilà.
Alors, ça c'est vrai, peut-être un dernier mot. Est-ce que, parce que finalement, la dernière contribution est celle d'Emmanuel Jafflin, qui est un philosophe,
oui.
Donc on n'est plus du tout dans la spiritualité, enfin directement en tous
oui.
les cas. Et il me semble que ce qu'il dit, c'est que au fond, le message d'Eti, ça serait que l'empathie, hein, c'est,
oui.
est-ce que c'est au fond, c'est une espèce de mise en pratique, de mise en œuvre,
de la compassion,
de l'empathie, mmh. Comme remède et dépassement de la haine face à la terreur. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette façon de finalement présenter Eti, de comprendre Eti?
Oui, c'est vrai. Et puis, mais moi, je vois quand même une dimension spirituelle évidente, mais je ne suis pas philosophe.
je
suis croyante.
Que... Moi non, alors.
mais il y a les deux. Il y a les deux. Et donc, je pense que c'est ce qui fait la force de ce message. C'est précisément ce message d'amour est sans limite, sans frontières absolues et adogmatique, fondamentalement singulier, adogmatique. Donc oui, il peut être entendu par même par l'athée et entendu, je pense, par tout croyant.
Eh bien, écoutez, Cécilia Duterre, je vous remercie infiniment donc d'être venue présenter votre livre. Alors, je rappelle que le titre du livre, Un cœur universel, regard croisé sur Eti Ilsoum, aux éditions Salvator. Et donc, dimanche prochain, Antoine Spire recevra Adam Biro au sujet de Un juif perplexe, aux éditions Métropolis. Bonne journée et à bientôt.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Mano Siri sur Judaïque FM.